Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Guillaume Erner. Et dans la bagarre du Brexit, vendredi dernier, on a oublié d'annoncer notre partenariat avec le dessous des cartes sur Arte. On peut regarder l'émission consacrée au Danube, cartographie politique. On peut la regarder, bien sûr, sur Internet, sur le site de nos amis du dessous des cartes. Alors ceci, sans rapport avec cela, Daniel Collard, bonjour. Oui, Daniel Collard. Bien, donc on va parler des rapports surtout franco-allemands. Il va falloir d'ailleurs patiemment décliner une par une les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les institutions, leur fonctionnement, bien d'autres questions clés. Et puis d'ailleurs, en passant, il faudra s'interroger sur le sort du traité transatlantique de libre-échange. Oh, ce matin, c'est plutôt donc ce sont les rapports franco-allemands. Historiquement, c'était le marché commun intégrateur, c'était le socle politique avec la réconciliation de 63, c'était les politiques communes jusqu'au marché unique de 93. Et Berlin et Paris l'avaient dit clairement durant la campagne référendaire britannique. On a besoin de Londres pour des raisons autant économiques que politiques. Ce n'est plus le cas et définitivement. Donc il y a des conséquences certainement importantes sur les rapports franco-allemands. Il n'y a plus de triangle entre Berlin, Londres et Paris. Maintenant, il y a un axe qui va être très difficile à gérer entre Berlin et Paris. Est-ce que vous partagez, Daniel Collard, cette analyse ?
Oui, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire aux fondamentaux, revenir un peu aux fondamentaux. Ce qu'il faut, se méfier, je crois, sur le plan international des rapports entre les États, de surestimer ou de sous-estimer l'événement qui vient de se produire avec le Brexit. Il faut pas surestimer parce que c'est pas un événement planétaire, c'est un événement européen. Et il faut pas sous-estimer non plus parce que la Grande-Bretagne est la deuxième puissance économique de l'Union européenne et elle se retire non pas de l'Europe. L'Europe, le continent n'a pas bougé. La Grande-Bretagne est une île, mais elle est européenne. Cela étant, il y a des conséquences positives et il y a des conséquences négatives. Allez, qu'on peut rapidement passer d'abord sur les conséquences négatives. Le risque d'un effet domino, le risque de remettre en cause les relations bilatérales, notamment entre la France et l'Allemagne, Berlin et Paris, les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Nous sommes dans des cercles internationaux différents. La France et la Grande-Bretagne sont membres de l'ONU et ont l'arme nucléaire. L'Allemagne n'est pas au Conseil de sécurité, n'a pas l'arme nucléaire. D'autre part, on peut dire aussi qu'il peut y avoir des effets positifs. D'un mal peut sortir un bien. Il faut remettre ça dans son contexte international, je crois. C'est la chose la plus importante. L'Europe, au départ, était construite par 6 États. Et c'était pendant la guerre froide, dans un système international bipolaire, soviéto-américain, dominé par les superpuissances. Depuis 89, la chute du mur de Berlin, qui a permis la réunification de l'Allemagne, et la chute de l'Empire soviétique, nous sommes passés dans un système international multipolaire et mondialisé. Et d'une Europe des 6, puis des 12, maintenant une Europe qui était à 28 et maintenant à 27. Alors on ne peut pas conserver la même conception des choses selon qu'on est dans un système multipolaire mondialisé ou d'un système bipolaire qui était dominé par des États non européens. Sur le plan des rapports franco-allemands, je crois qu'on peut dire qu'on assiste, il faut approfondir, le noyau dur de la construction communautaire doit reposer sur le couple franco-allemand. Mais il y a une asymétrie. L'Allemagne est une grande puissance économique, la première de l'Union européenne, la Grande-Bretagne étant la seconde. La France est dans une position un peu difficile sur le plan économique, monétaire, financier, des dettes. Mais on compense des équilibres économiques par une présence internationale, un rayonnement, une audience en quelque sorte. Ce qui se passe, je crois que c'est le fond du problème, c'est que au départ on a fait une Europe marchande, une Europe des marchés. Et ça suffit plus. Il faut passer maintenant d'une Europe marchande à une Europe puissance globale, fondée sur des cercles concentriques à géométrie variable avec un axe un couple franco-allemand solide.
Voilà. Alors, Daniel Collard, en même temps, il y a des choses qu'on pouvait faire avec le Royaume-Uni, vous l'avez dit, c'est-à-dire défense, ONU, action extérieure, oui, et ainsi de suite, qu'on ne pouvait pas faire par définition et par construction avec l'Allemagne. Et réciproquement, il y a des choses qu'on pouvait faire avec l'Allemagne, notamment l'intégration politique, qu'on ne pouvait pas faire avec Londres. Donc, ce triangle est devenu un axe, et c'est un axe quand même extrêmement... C'est-à-dire, on peut craindre que Berlin et Paris ne s'embrassent, excusez-moi, aller sur la bouche pendant un an ou deux ans, comme ça, par dépit ou pour faire semblant, mais en fait, les divergences sur l'avenir de l'Union européenne sont quand même très importantes entre les deux capitales, et on l'a vu à plusieurs reprises, et on n'a pas le temps de le développer, on le fera peut-être une autre fois, mais l'Allemagne, à plusieurs reprises, est sortie de l'enveloppe de l'Union européenne dans les récentes années, et il y a quand même des dossiers qui sont très, très patents.
Très difficile et très délicat à gérer, oui.
Oui, donc finalement, ce couple, il est mort, c'était un petit peu de la rhétorique, de la propagande, et aujourd'hui, autant mettre à plat les divergences plutôt que faire semblant de faire avancer l'Europe politiquement dans une situation aussi mauvaise quand même.
Oui, je crois que l'Europe est en crise, c'est un constat qu'on peut faire objectivement, mais ça reste un grand défi, ça reste un grand projet, ça reste aussi un grand destin pour tous les peuples du continent. Cela étant, sur le plan juridique, puisque juriste je suis, il y a quand même des problèmes très délicats à régler, non seulement les relations bilatérales, le fameux article 50 du traité de Lisbonne qui doit régler le processus de retrait de la Grande-Bretagne, mais il y a aussi le problème des relations multilatéral dans un monde complètement différent qui est sorti de la guerre froide. Et c'est là qu'est le problème, c'est de passer d'une Europe marchande à une Europe puissance globale, qui a une identité, qui a une personnalité qui pèse sur la scène internationale. Sinon, on risque de sortir de l'histoire. La sortie de la Grande-Bretagne affaiblit, il faut le redire et le dire, la construction de l'Union européenne, c'est l'aspect le plus négatif. Il ne faut pas qu'il y ait non plus balkanisation ou effet domino, bien sûr. Mais je crois que le fond des choses, c'est effectivement le but. Quelle est l'identité de l'Europe sur le plan international?
Oui, mais en même temps...
Et quelle est sa puissance sur le plan diplomatico-stratégique?
En même temps, Daniel Collard, et je précise, vous êtes professeur émérite à l'Université de Franche-Comté, spécialiste du droit international. L'Allemagne est par rapport à l'Europe. L'Europe, on l'a dit, il y a 15 ans, est-ce qu'elle doit devenir une puissance ou un espace, hein, c'était la dialectique de l'époque.
Oui, une zone de libre-échange ou une puissance globale.
Mais elle est ni l'une ni l'autre. Enfin,
nous sommes à l'intermédiaire. Mais sur le plan, le problème de fond, c'est les institutions aussi. Derrière les institutions, on retrouve la souveraineté. Alors, selon qu'on fait une Europe fédérale, une Europe fédérale, ou de la coopération fût-elle renforcée, ces trois modèles ne conviennent plus. Il faut faire une Europe, je pense, des cercles concentriques avec les États qui veulent avancer, ceux qui veulent rester où nous en sommes, puis ceux qui veulent s'en aller.
Au fond, c'est les fameuses expressions journalistiques, mais pour une fois très bonnes, l'Europe est déjà une Europe à la carte, à géométrie variable et à plusieurs vitesses. C'était d'excellentes expressions.
Oui, mais la zone euro, c'est 19 États. Schengen, c'est encore un autre problème.
Schengen, ce qu'il en reste après.
Oui, il en reste.
Oui, parce que là, vraiment...
Vous avez soulevé avec raison le traité transatlantique qui est en négociation et qui est tout à fait capital pour l'avenir de la construction communautaire européenne. Ces problèmes à chaud, il faut prendre du recul, il faut y réfléchir, c'est aux gouvernants à le faire, bien évidemment, et il faut qu'on ait des gouvernants à la hauteur des défis qui se posent à l'Europe.
Merci,
toujours le cas.
Merci, Daniel Collard, en plus.
Modeste.
Et en plus, il y a deux incertitudes, c'est la présidentielle en France en mai prochain.
Oui, et en Allemagne.
Je crois que c'est en novembre 2017, tout ça n'est pas simple. Demain, l'Espagne, à propos des législatives, avec notre invité, Benoît Pélistrandi.
Merci beaucoup Thierry Garcin.